Jean-Philippe Rossignol, bonjour. Nous parlons donc de vie électrique aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Votre livre ne pourrait-il pas s'intituler plutôt Vie électrique au pluriel?
Oui, c'est-à-dire que le singulier du livre était justement une façon d'englober toutes ces journées et toutes ces vies électriques, en effet. Mais j'ai plutôt tendance à préférer le singulier que le pluriel, donc j'ai décidé d'appeler le livre Vie électrique, tout simplement.
Que signifie ce titre? Quel sens vous lui donnez?
Le sens d'une traversée, le sens d'une énergie, de quelque chose de catatonique, c'est-à-dire que l'expérience qui est dans ces pages est une expérience de littérature, mais aussi avant tout une expérience de vie, c'est-à-dire de traverser comme ça les pays, les langues, et de faire que ce soit cette unité qui emporte le morceau à la fin.
Traversée de pays, de langues et expériences de vie et de littérature, pour vous, c'était pas forcément envisageable d'écrire ce livre sans l'idée du voyage, sans l'idée de d'ailleurs. Au tout début, vous vous expliquez que oui, on peut pas vivre dans un seul pays.
Oui, exactement. C'est-à-dire que il y a toujours la possibilité d'écrire une fiction ou d'écrire un essai sur un auteur qu'on aime ou à partir d'un imaginaire. Mais quelle est la possibilité de rendre hommage aux lectures, de rendre hommage aux peintures, de rendre hommage aux personnes que l'on aime ou que l'on a vues furtivement dans sa vie? Et je trouve que la forme était à inventer, et cette promenade en 30 jours était comme ça mon carnet de bord.
Un carnet de bord, un carnet de lecture aussi. Enfin, je l'ai lu comme un carnet, c'est bon, mais un carnet de lecture, un carnet d'admiration.
Exactement, c'est-à-dire de passer de Flannery O'Connor à Mayakovsky, de se laisser aussi entraîner par des voix moins connues. Je pense à l'écrivain allemand Rolf Dieter Brinkmann, à la photographe Alix Cléo Roubaud, l'écrivain anglais B.S. Johnson, de faire entendre aussi ces voix sauvages, incandescentes, nettes. Parfois désespéré, mais toujours dépassé aussi par la joie d'écrire et d'exister.
Alors on abordera un petit peu plus tard la question du choix qui est importante. Ce qui m'a tout de suite surpris, c'est cette série de portraits assez courts. Est-ce que vous vouliez faire des condensés de vie très rapides?
Oui, ça c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que l'on puisse aujourd'hui, ou alors il faut le faire avec brio et énergie, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui écrire 400, 500, 600 pages, 1000 pages sur un modèle ou sur une figure qu'on admire. D'une part parce que le lecteur n'a peut-être plus l'énergie de lire ce genre d'ouvrage, et aussi parce que la forme brève, le concetto, comme ça, de serrer la chose, ça permet d'aller directement à l'essentiel et de ne pas être dans le bavardage. Et je pense que la littérature ne peut pas être du bavardage, sinon elle se dissout et il faut au contraire qu'elle soit saisie, tenue et percutante.
Est-ce que vous tenez compte du temps de lecture de votre lecteur, du coup? Là, le livre se lit en quelques heures, et en quelques heures, on a un vaste panorama.
Oui, et le temps de lecture, ce qui est beau aussi, c'est pourquoi ne pas lire ce livre en 30 jours? Et pourquoi ne pas faire l'expérience de lire un portrait, de prendre une journée par jour, et même d'être à l'étranger avec le livre, puisque le livre propose vraiment ça, de quitter aussi le territoire français et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Mais la temporalité est toujours quelque chose de très beau dans la lecture d'un livre, parce que c'est ce qui fait la beauté d'un texte, c'est ce qui fait aussi dans notre mémoire qu'on va retenir ou non ce livre. Et donc je pense que c'est essentiel.
Alors, on va parler du dispositif justement que vous venez d'aborder. Vous avez parlé d'une forme à inventer, une promenade en 30 jours. Quel est le dispositif adopté pour fabriquer ce livre et donc éviter l'écueil du recueil de textes?
Eh bien, le point de départ est l'autobiographie, puisque le livre s'ouvre par un voyage à Berlin et une déambulation dans la ville avec une amie, Petra, que je retrouve. C'est une façon de découvrir Berlin autrement, c'est une façon d'y boire, d'y danser et d'y aimer avec une autre manière que celle que je vis en France. Et à partir de ce voyage à Berlin, c'est une manière d'ouvrir tous les autres voyages et de dire qu'il n'y a pas de séparation entre la bibliothèque et le transport, au sens où on peut parler du transport amoureux ou du transport de lecture. Voilà.
Dans votre dispositif, vous donc mêlez l'autobiographique à des portraits d'écrivains et vous vous en faites quelque part des biographies, mais très condensées, très courtes, et vous prenez comme ça quelques petits éléments de la vie. C'est ça que vous vouliez mêler, votre autobiographie. Alors, je ne sais pas si elle est imaginaire ou si elle est réelle. D'ailleurs, est-elle réelle ou imaginaire? Ça peut être. Oui, allons-y là-dessus.
Ce dont je parle dans ce livre et quand je parle de moi, il y a des pages qui sont très clairement autobiographiques et d'autres qui sont inventées. Et je voulais justement que ce soit le même jeu et que les déambulations à New York dans le quartier de Tribeca sont une invention ou une transposition, mais vraiment éloignée, alors que l'ouverture de Berlin est une réalité. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est très intéressant ça, de séparer ou de savoir si le jeu a vécu ou s'il invente? Je pense que si c'est percutant, si c'est vivant, s'il y a une forme, s'il y a une langue dans un livre, le texte pourrait être au il. Je pense que ça ne changerait pas vraiment la chose. Mais ce qui pour moi est important, c'est de se placer comme ça à hauteur d'écrivain. Quand on aime un écrivain, on veut essayer de comprendre aussi ses instants de vie. Et c'est cette phrase très belle de Virginia Woolf quand elle parle de ces moments of being. Et un instant de vie, c'est très précis. C'est à la fois un effondrement, c'est une révélation, c'est un moment de grâce, c'est un moment d'abandon, d'espoir, quelque chose de fugace ou au contraire quelque chose de très pénétrant.
Instant de vie pour les écrivains, mais là vous n'inventez pas. C'est des faits qui se sont, enfin, qui sont réels. Vous n'avez pas imaginé des instants de vie pour les écrivains ou les artistes dont vous parlez dans le livre. Et donc instant de vie également pour vous, mais qui peuvent être fictionnels.
Oui, exactement. C'est-à-dire que les pages que je donne pour William T. Volman ou la lettre que j'adresse à Jean Genet, ce sont évidemment ces instants dans mon expérience aussi de lecture. Et ces auteurs sont choisis évidemment parce que je les aime et parce que j'ai une affinité et personnelle et intellectuelle avec eux. Il n'y a pas du tout de distance où je ne prends pas les choses de manière froide en faisant un catalogue comme ça un peu réflexif. C'est pas du tout le cas, hein. Au contraire, c'est très incarné. Enfin, j'espère.
Votre livre est un art du portrait d'écrivain. Je l'ai lu aussi en ce sens. J'imagine que vous aviez des sources d'inspiration, peut-être des maîtres en la matière.
Mais certains livres que j'aime beaucoup, oui, par exemple comme le livre de Marcel Schwob où il fait le portrait comme ça de Paolo Uccello dans Vies imaginaires, les livres de Borges où il est quand même capable comme ça de faire le portrait de quelques figures de Buenos Aires et de le les saisir, ou dans L'Aleph de faire le portrait d'écrivains imaginaires. Et donc ça, évidemment, ce sont des lectures qui sont fondatrices, oui.
Le poids de la documentation, J'imagine qu'il y a de la documentation pour faire ses portraits, bien entendu. Pour Mayakovsky, par exemple, vous citez donc la grande biographie principale de Bengt Jungfeld. Quel poids a eu la documentation dans ses portraits électriques? Est-ce qu'elle était pesante ou est-ce que c'était des souvenirs, par souvenir, par mémoire, du coup, que vous avez réalisé ces instants de vie?
Non, la documentation est légère, c'est-à-dire que je ne me suis pas armé d'essais, de gloses, c'est-à-dire que la matière, ce sont les livres, mais aussi parfois quelques images ou quelques films, mais principalement d'aller au cœur du texte de Faulkner. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces photographies, même si je place dans le texte une photographie de Faulkner à Hollywood dans les années 40, où on voit William Faulkner assis, torse nu, dans une position assez décontractée, comme s'il était un golfeur ou un joueur de billard. Non, la matière, c'est ça, c'est de s'immerger dans les palmiers sauvages, de relire Sanctuaire, de traverser sa correspondance, de comprendre ce que ça signifiait d'être scénariste à Hollywood dans les années 40, et comment ça pouvait être une souffrance. Voilà, ça c'est vraiment le travail est là, c'est de relire Light in August en essayant de comprendre vraiment ce Joe Christmas et ce qu'il en est de ce meurtre.
Donc ça, c'est pour Faulkner, pour Mayakovsky, vous avez quand même lu la grande biographie. Et là, pourquoi en avoir tiré, juste voilà, quelques petits éléments fugaces. Ma question, c'est pourquoi tel instant de vie plutôt qu'un autre? Quel choix dans la vie d'un artiste? Est-ce que c'était vraiment l'élément qui vous... un déclencheur pour vous, ou un élément déclencheur, ou alors plutôt quelque chose qui vous touchait, qui vous émouvait? Quelque chose que voilà, que vous avez lu et que vous vouliez développer.
Mais le portrait de Mayakovsky m'intéresse dans ce sens où il fait ce passage entre la Russie et les États-Unis. Et comment un poète révolutionnaire passe de Moscou à New York et ce qu'il en est de cette traversée. Traverser l'Atlantique, c'est aussi traverser ces 30 jours dans Vie électrique. Donc, Mayakovsky est en bateau, la traversée est un peu rude. Et il rencontre Ellen Jones à New York. Et ça m'intéressait de comprendre ce qu'il en était de Mayakovsky à New York, et aussi d'écrire dans le livre 10 pages à Tribeca et à cette soirée autour de Charlie Parker et de Suzanne. Donc tout est toujours lié. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le livre l'Espagne. Elle arrive par un voyage aussi en mer et un séjour sur l'île de Formentera, mais on retrouve l'Espagne dans la littérature que j'aime, on retrouve les textes de Julián Ríos, on retrouve aussi Cuba avec Guillermo Cabrera Infante. Et donc voilà, c'est-à-dire que les villes sont aussi en correspondance et elles se font signe tout au long des pages.
Et donc dans le cas de Mayakovsky, ce qui vous intéressait, c'est voilà, l'arrivée de Mayakovsky à New York. Et il y a dans cette, enfin, vous n'en parlez pas, mais dans cette biographie, moi, ce qui m'avait étonné, par exemple, c'est qu'il trouvait que la ville avait été construite de manière non logique, non raisonnée. Et lui, il partait de l'idée, entre autres futuriste, d'avoir des plans très cadrés. Voilà. Et là, du coup, vous, ce qui vous intéressait, arrivée à New York et histoire d'amour.
Oui, bien sûr, et le voyage pour Mayakovsky est très intéressant aussi, même politiquement, parce que c'est un homme qui arrive avec l'idéologie de la révolution léniniste, qui amènera quand même la dictature, mais lui arrive dans un pays capitaliste. Donc l'architecture, la vibration, l'argent, tout ça change. Et donc c'est très intéressant de voir comment ce colosse, qui a participé à la révolution futuriste, qui connaît extrêmement bien la pensée de Khlebnikov et des autres écrivains russes de son temps, Essénine. Et voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il arrive à New York dans les années 20 et comment vivre le désir dans cette ville?
Alors, un instant de vie de Maïakovski, mais en même temps, dans ces quatre pages sur, donc c'est 24e jour, Maïakovski est joueur, vous arrivez à faire des raccourcis historiques, hein, des condensés de vie, et là vous avez une panoplie de petites phrases qui peuvent condenser une histoire. Je vous lis juste un extrait. On touche là au point d'aveuglement idéologique de Maïakovski, une poésie nouvelle, un homme-machine, une volonté terrible au service de l'organisation scientifique du travail, résultat et dérive quelques années plus tard, le goulag.
Oui, c'est-à-dire que quand on regarde de près la poésie russe, on s'aperçoit que ce sont des gens qui étaient totalement engagés, et je parle pour les grands poètes, mais qui ont aussi dû se battre avec le régime politique. Donc Mandelstam est envoyé dans les goulags, il y meurt en 1938. Maïakovski est dans un trouble quand même où il pourrait s'engager un peu plus grandement pour le régime politique, mais il s'y refuse. Et voilà, donc ce sont des penseurs qui proposent une révolution, mais qui ont face à eux aussi des révolutionnaires politiques qui deviendront des dictateurs. Donc c'est très complexe quand on est artiste de se confronter à l'idéologie, et ça, c'est très intéressant parce que c'est là où on s'aperçoit que la révolution aussi peut être politique, donc dangereuse.
Pour le choix des artistes ou des écrivains, c'est un choix, mais ça donne pas l'idée que c'est arbitraire. Vous le faites avec l'importance de la géographie en fonction des pays. Vous avez bien parlé de l'Espagne, de New York, de Cuba. Quel autre élément avez-vous utilisé pour faire votre choix, à part la géographie ?
Le style, évidemment. C'est-à-dire que les écrivains que j'aime sont des personnes qui questionnent la forme, qui ne se contentent pas du réalisme, qui vont très loin dans l'expérience intérieure. Donc évidemment, lire le journal d'Alix Cléo-Roubaud, c'est bien autre chose qu'une liste des best-sellers ou qu'une bluette actuelle, ou même ancienne, puisqu'elles existent depuis l'éternité. Donc, c'est aussi un rapport au corps. C'est-à-dire que, qu'il soit joyeux ou malade, le corps m'intéresse en littérature. Je pense qu'il même il est très très important. L'écriture de Flannery O'Connor est de ce point de vue magnifique. C'est-à-dire que quand on lit son journal L'habitude d'être, on voit toute la sismographie d'une femme, c'est-à-dire de ses années de jeunesse où elle est paralysée jusqu'à sa mort en 1964 ou 1965, je ne sais plus, la traversée du corps de Flannery O'Connor dans sa ferme de Milledgeville avec sa mère, avec ses pans, avec aussi son rapport à la littérature, son rapport à Joseph Conrad, son rapport aux évangélistes, toutes les lectures et sa très grande curiosité alors qu'elle est abîmée dans sa chair, et son humour surtout, son humour. C'est-à-dire que Flannery O'Connor est certainement l'un des écrivains américains les plus francs, les plus farouches, les plus comiques, à la fois très, très discrète et en même temps tenace dans ses positions et dans ses jugements et dans son amour de la nature, et jusqu'au bout elle défend ses positions avec une distance, un détachement, une singularité et une énergie qui est magnifique, tout simplement.
Votre livre Vie électrique aurait-il pu s'appeler aussi Vie éclectique ?
Non, parce que je me méfie aussi de cette forme d'éclectisme, c'est-à-dire que ça peut vite devenir du touche-à-tout et quelque chose d'assez insaisissable et où finalement on ne comprend pas les rapprochements ou ce qui peut unir des peintres, des musiciens, des écrivains, des architectes, des danseurs. Donc je me méfie de ça. Par contre, l'électricité, oui. L'incandescence, oui. La fougue, oui. Mais voilà pourquoi le livre s'appelle Vie électrique.
Est-ce que pour un ouvrage futur à venir, utiliserez-vous un autre dispositif pour écrire d'autres portraits ou pas?
Non, je pense que c'était l'ouverture de ce premier livre et il a son unité, il a sa vie en soi. Donc, non, non, c'est ce livre-là et les autres livres, voilà, seront autre chose.
Plus fictionnel, du coup, peut-être.
Certainement, oui.
Vous voulez pas en dire plus.
Non, puisque je n'ai pas commencé à écrire.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Rossignol, pour l'interview. Merci.
Merci.